avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL, au cœur de la littérature.
CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 30 mai et ici Charline Caro, votre animatrice pour l'avant-dernière de la saison. La dernière émission aura lieu demain à 8h et elle se fera en présence de public, alors restez branchés pour l'occasion. Et aujourd'hui, on écoute l'entrevue des humoristes du Women's Planning Show ainsi que nos chroniqueurs avec Elisa Fernandez pour les grandes femmes de Montréal et Michel Binette pour la philosophie. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, des citoyens de Saint-Laurent dénoncent la décision de l'arrondissement de retirer un arrêt obligatoire pour les automobilistes. Celui-ci est situé au cœur d'une zone commerciale que de nombreuses familles côtoient, poussant un collectif à lancer une pétition pour s'opposer à ce retrait prévu le 10 juin prochain. Et ensuite, le 1er juin, ce samedi, c'est la journée mondiale de la décroissance. Et à cette occasion, un festival de la décroissance est organisé au Boisé Steinberg. Au programme, des conférences, des panels et des débats, mais aussi de quoi se divertir avec des balades et une fanfare. C'est donc ce samedi au Boisé Steinberg à Hochelaga Maisonneuve. On continue avec l'entrevue des humoristes du Women's Planning Show. On est à présent avec les humoristes Anne-Sarah Charbonneau et Noémie Leducroix qui animent ensemble le Women's Planning Show. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là.
Allô.
Le Women's Planning Show, c'est un spectacle d'humour féministe que vous avez créé en 2021. Quel est le concept?
C'est un show d'humour féministe, comme tu l'as dit, où on invite des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et de genre à venir parler de ce qu'elles veulent sur scène, sans jamais se faire interrompre la parole par un homme cis. C'est comme la spécialité du show. Mais là, évidemment, c'est pas qu'on aime pas les entendre parler, c'est juste qu'ils ont déjà tous un podcast. Fait que c'est vraiment pour laisser la place à ceux qui en ont moins.
Et justement, pourquoi ce nom, Women's Planning? Ça exprime ce que tu viens de dire.
Ouais, ben on s'est inspiré du phénomène social, le Men's Planning. Quand un homme explique à une femme quelque chose qu'elle connaît déjà. Puis on trouvait ça drôle de faire un clin d'œil. Puis on tient à dire quand même ça n'existe pas le woman's planning. On a juste fait un clin d'œil. Puis comme Noémie disait, on voulait juste laisser la place aux femmes cette fois-ci, puis aux personnes de la diversité sexuelle et de genre à parler, tu sais.
Ouais, c'était comme notre façon de se réapproprier le terme mansplaining en créant le womansplaining puis en laissant la place justement à ces personnes-là à parler. Ouais.
Sachez que j'ai googlisé womansplaining et qu'on trouve une définition qui est totalement l'inverse du mansplaining.
Ouais.
Donc, bon, important à rappeler.
Mais je pense que c'est comme sur Urban Dictionary.
Ouais,
c'est pas très crédible. Souvent, c'est comme des masculins fâchés qui vont écrire les descriptions des trucs là-dessus.
Ouais,
là.
C'est ça.
T'as l'air de connaître le site internet. Donc l'enjeu est double, c'est mettre en avant les femmes humoristes et les humoristes de la diversité sexuelle et de genre, mais aussi aborder des sujets qui les concernent. Comment vous avez eu l'idée tout simplement de monter ce projet?
C'est sorti de mon cerveau.
Ouais.
Mais je venais juste de terminer l'école de l'humour, puis j'étais un peu perdue, je pense. Je suis comme devenue féministe pendant la pandémie aussi. Juste après ma formation, fait que là, j'étais comme, OK.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut comme, j'ai envie de faire de l'humour d'une nouvelle façon maintenant. Genre, j'ai envie de. Puis, tu sais, c'était difficile. Moi, je trouvais que c'était difficile de trouver ma place. Je me sentais pas nécessairement comme à ma place dans toutes les sphères, dans la sphère humoristique québécoise actuelle. Mm-hmm. Puis, je pense qu'on trouvait ça dommage aussi, comme on n'était pas, mettons, je suis un peu éparpillée, là, mais dans ma cohorte à l'école de l'humour, on était comme 5 filles, celle-là, Ansa, vous étiez 2.
Ouais.
C'est ça, fait que c'est comme, puis même dans les soirées d'humour, c'est difficile de se rassembler ensemble, puis de se voir, puis de se croiser. Fait que je pense qu'on voulait créer un espace où est-ce qu'on pouvait se rencontrer, échanger, puis comme.
Oui, parce que souvent, moi, pendant un peu avant, puis pendant ma formation, je faisais des shows dans des bars aussi, puis on était souvent seulement une fille ou personne de la diversité sexuelle et de genre. Fait qu'on peut pas vraiment... ça fait en sorte qu'on se rencontrait pas, tu sais. Mm-hmm. Puis c'était entre autres pour ça. Puis aussi, ben vu qu'on est féministe, on voulait rendre... On trouvait que c'était le médium de l'humour est quand même vraiment accessible, tu sais. Mm-hmm. Puis populaire aussi. Mm-hmm. Fait qu'on se disait qu'on voulait faire... Ben, rendre le féminisme accessible, mm-hmm. c'est sûr que c'est un gros défi, mais mm-hmm. évidemment, c'est juste à travers les vécus personnels des humoristes, mais on trouvait que, tu sais, de redorer l'image du féminisme aussi, de trouver ça cool, mm-hmm. tu sais, mm-hmm. puis que, ouais, on veut juste être comme la première porte du féminisme, puis après ça, il y a des essais vraiment mm-hmm. plus en profondeur puis intéressants. Mais c'est ça que je trouvais le fun avec le médium de l'humour, c'est que c'est tellement accessible.
Mm-hmm. Et donc, t'as embarqué dans son projet, c'est ça?
Ah oui, ouais, ben c'est parce que Noémie me dit « Ah, j'ai un projet, c'est full embryonnaire », puis finalement, c'était tout le projet. fait que oui, tout de suite, puis on a pitché ça au ZooFest, qui était à l'époque, le show était juste à côté d'ici, là, mm-hmm. Au Monument National, puis on a pitché ça, ça s'est sold out en... Ben, le ZooFest a accepté, puis mm-hmm. ça s'est sold out en très peu de temps. Là. C'était vraiment...
Il y avait une vraie demande.
Là, tout de suite après, on a senti que c'était nécessaire d'avoir quelque chose comme ça dans le milieu, puis comme la réaction était tellement bonne, on était comme, OK, on a quelque chose, là, on veut mm-hmm. amener ça partout au Québec.
Et donc, durant ces représentations, des humoristes invités viennent parler d'un concept féministe basé sur leur vécu. Vous avez notamment accueilli Doua Cachache, Garyana Jean-Louis, Michel Desrochers ou encore Catherine Levac. Comment vous choisissez vos invités?
Oh my God!
Est-ce que c'est seulement vos copines ou...
Non. On aime faire découvrir des talents aussi, là. Fait qu'on fait nos recherches, on va à des soirées, on se fait écrire aussi, puis on essaie tout le temps sur un spectacle d'avoir une certaine diversité, là, dans les sujets, dans les, comme, qui vient. On essaie d'avoir, comme... Fait que c'est ça, je pense que mm-hmm. créer une soirée diversifiée, c'est un peu ça qui, comme, nous fait choisir nos invités, maintenant. Mm-hmm.
Est-ce que c'est des humoristes qui déjà abordent des sujets féministes ou c'est un exercice parfois nouveau pour elles?
Ben en fait, souvent, c'est une bonne question parce que souvent on nous dit ah non mais souvent au début là, parce mm-hmm. que là ça fait quand même 3 ans qu'on le roule, fait que les humoristes le connaissent, mais au début je me rappelle qu'on nous disait ah non mais moi je suis pas féministe, puis j'étais comme ah mais je t'ai vu faire ce numéro là puis pour moi c'est vraiment féministe que tu parles de cette... Tu sais, juste ton angle de vie, vu que t'es une femme ou une personne de la diversité sexuelle de genre, dès que tu parles de toi, souvent, il y a des angles féministes sans que tu le veuilles, tu sais. Mm-hmm. Fait que je me rappelle, ça a été beaucoup de discussions avec les humoristes, puis on...
Vraiment, là, des artistes qui venaient puis qui étaient comme, mais là, ça va-tu rire? Je sais pas, là, si c'est assez pour votre show, puis comme... Peut-être que nous, dans notre humour, on est un peu plus radical, mais comme, c'est plus l'idée de créer un espace où est-ce que, comme, les numéros d'humour de cette personnes-là vont être célébrées à leur juste valeur. Mm-hmm. Peu importe, parce que des fois, quand t'es dans une soirée puis que t'es, mettons, la seule fille, il y a comme une pression, premièrement, de bien performer vu que t'es la seule. Faut que tu, comme, fasses tes preuves, mais aussi, comme, les sujets, tu sais, c'est pas toutes les crowds qui réagissent bien à, comme, des histoires de Diva Cup ou, tu sais, comme, c'est comme... On accepte moins ça, peut-être. Fait que je pense que c'était juste au Women's Planning. C'est juste que c'est une crowd qui veut entendre parler de ça. Mm-hmm. Fait que je trouve que ça laisse l'espace pour que, je sais pas, les numéros soient appréciés à leur juste mm-hmm. valeur. Fait que...
Et vous ressentez vraiment cette différence de public plus ouvert à vos blagues?
Oui. c'est un commentaire du public qu'on se fait souvent dire. C'est « Ah, oh, moi, j'aimais pas ça, les soirées d'humour. Puis là, maintenant, j'aime le woman's planning.
Mm-hmm. » Oui, c'est ça.
Fait que oui, je pense que ça amène une crowd, qui allait pas voir les soirées d'humour habituellement mm-hmm. parce mm-hmm. que...
Ils se sentaient pas identifiés à qu'est-ce qu'ils entendent sur scène, tu sais. Mm-hmm.
Ouais.
Si c'est principalement juste des hommes blancs qui parlent, tu sais... On peut rire, mais on ne relate pas nécessairement à ce qui est dit. Puis je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens. Mm-hmm.
Ce sont donc de nouvelles invités, de nouveaux sujets à chaque fois. Oui. Le spectacle se renouvelle sans cesse. Ouais. Est-ce que c'est un défi pour vous de se renouveler à chaque soir?
Bonne question. Mais c'est une bonne question.
Oui.
Oui et non, je dirais. Ouais.
Parce qu'il y a tout le temps, vraiment, c'est vraiment mélangé la salle. Il y a vraiment souvent des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler du spectacle. Fait que, tu sais, on a comme une façon comme plus structurée de mm-hmm. dire qu'est-ce qu'on de présenter le spectacle, mais comme
on en a fait, je pense, j'ai calculé hier, puis je pense qu'on est rendu comme à 60, 70 shows depuis qu'on a commencé. Okay. Fait que, oui, c'est comme, on veut pas tout le temps faire les mêmes blagues, puis il y en a plein de blagues de, tu sais, c'est, ça se renouvelle tout le temps avec qu'est-ce qu'on vit aussi, là.
Mais vu que les artistes sont tout le temps différents, tu sais, c'est sûr que le show va être différent, là, tu sais. Mais, ouais, fait que oui, non.
Et alors, quels sont les sujets abordés en vrac, comme ça? La Diva Cup, t'as dit?
Oui, la Diva Cup.
La queerness.
Le catcalling.
La grossophobie.
La grossesse.
La grossesse.
On a des histoires de sexualité.
La parentalité, en général.
C'est vraiment varié. Il y a autant de sujets qu'il y a de personnes qui viennent sur le spectacle parce que chacun des vécus est tellement personnel puis les gens ont tellement vécu des choses différentes. Mais qui se ressemblent, tu sais, en même temps, comme on a toutes des histoires uniques, mais on a toutes vécu quelque chose de semblable à ce qui est raconté, tu sais, à différents niveaux, là. Fait que c'est vraiment varié.
Ce spectacle, il vise avant tout à faire rire, mais pas seulement, on y reviendra. Est-ce que les enjeux féministes sont un bon terrain d'humour, de rigolade?
Ben oui, ben c'est parce que ça dépend par où que tu le prends, tu sais. Je pense que nous, on a décidé d'avoir... d'y aller plus avec toi, tes sujets, à cause de ton vécu, ça l'ouvre une porte à un angle féministe. T'sais. Fait que, mettons, quand on dit, on parle de grossophobie, c'est pas nécessairement que l'humoriste va arriver puis va dire, je vous parle de grossophobie présentement. T'sais, c'était que, je sais pas si ça fait du sens.
Ouais, c'est comme implicite.
C'est implicite à son vécu, les violences par rapport à la grossophobie, mais ça, c'est comme... Oui, c'est drôle parce que c'est comme, tu sais, c'est comme un doute qui va parler de à quel point sa blonde est conne. Ben ça, c'est son vécu. Ça, c'est sexiste pour moi, même s'ils vont pas le dire. Mais genre, fait qu'un angle féministe, c'est comme, je sais pas si ça fait du sens là, ce que je dis, mais c'est juste que c'est comme intrinsèque un peu.
Ouais,
ça va venir de soi, tu sais. Parce que on est tellement proche de nous, tu sais, on fait pas vraiment des personnages en stand-up. Fait que tout de suite, on va connaître tes valeurs. C'est facile de parler d'enjeux féministes quand tu l'es.
Ouais, par exemple, moi, je parle de, entre autres, de j'ai une soeur jumelle, puis on se fait souvent demander si on veut faire des trips à trois. Puis, tu sais, déjà, ça a un angle féministe parce que ça n'a pas de bon sens qu'on nous demande ça juste parce qu'on est des soeurs. Puis, tu sais, c'est une fétichisation de la sexualité entre jumeaux avec des frères et soeurs. Fait que déjà, ça, quand je parle de ça, j'ai pas besoin de dire, tu sais, c'est inacceptable. On le comprend que, comme, c'est lourd, puis comme, en tout cas, ça a un angle féministe.
Tous ces sujets-là, ils sont pas drôles sur le papier, et pourtant, vous arrivez à faire rire des foules, en tout cas, on dirait. Comment c'est possible de rire à partir de sujets qui ne sont pas drôles?
Je sais pas comment.
Mais moi, c'est comme, l'humour, pour moi, c'est comme un mécanisme de défense. C'est aussi un coping mechanism. C'est comme ma façon de process mes émotions. Fait que moi, c'est la façon que j'ai trouvée pour me réapproprier les histoires qui me sont arrivées, puis comme mon vécu, puis les choses moins fun qui sont arrivées. Fait que, je sais pas, c'est facile pour moi de comme... d'aller dans l'ironie avec ces choses-là, puis comme c'est délicat là. Souvent, si on fait un trigger warning, un avertissement au début du spectacle, parce que évidemment qu'on essaye de rendre ça drôle, mais ça vient effectivement avec un défi. Puis des fois, les sujets, si on parle de troubles alimentaires ou de harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est lourd. Fait que le public est averti que ça se peut que même si on essaye que ce soit drôle, ça choque ou ça fasse revivre des émotions. Mais je pense qu'il y a tellement comme un esprit de solidarité dans la salle que les gens sont comme... Tu sais, les gens sont avertis que c'est ça qu'ils s'en vont recevoir. Puis je pense que c'est facile d'en rire parce que le fait que quelqu'un en parle sur une scène devant comme des centaines de personnes, ça libère quelque chose. Le fait que comme... Je sais pas, je trouve que c'est audacieux que quelqu'un raconte ça, que quelqu'un se mette vulnérable au point d'essayer de faire des blagues avec quelque chose comme ça. Je sais pas, ça crée quelque chose de spécial.
Vraiment. Puis Anna Gatsby en a parlé dans son show, là, mais c'est quand des sujets comme... Ben, elle parlait pas des sujets féministes, mais je veux dire, tu sais, l'humour, c'est de mettre une tension puis de relâcher la tension, tu sais. Fait que quand ton sujet est plus difficile à approcher, ben la tension est plus grande. Fait que quand tu réussis à faire un gag qui va faire rire, c'est que la tension est tellement relâchée que des fois, c'est ça. Je trouve... Moi, en tout cas, perso, j'aime vraiment mieux les humoristes qui parlent de sujets qui sont un peu plus difficiles ou qui sont vraiment vulnérabilisants pour la personne. Parce que ça met une mini-tension, mais en même temps, je veux la relâcher puis, tu sais, être avec la personne. Fait que, ouais.
Puis des fois c'est pas toujours le gag du siècle qu'on fait. Là, des fois, c'est maladroit, puis des fois, tu sais, on se trompe aussi, mais il y a comme... Je sais pas, dans la salle, il y a cette compréhension-là que, tu sais, on parle de ça, fait que c'est comme... C'est vulnérabilisant, fait qu'il y a comme un support, vraiment. J'ai l'impression.
Vous êtes donc les animatrices de la soirée. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites tous ces soirs-là?
Mais spécifiquement, là, on embarque les deux sur scène, sur une musique.
Souvent, on a des petits jeux de préparer, des petits concours. Dans le fond, comment une soirée va se dérouler, c'est qu'on anime les deux, Anne-Sara et moi, au début. Puis après ça, on va présenter à tour de rôle les humoristes qui viennent. D'habitude, c'est moi qui reviens. Je ne fais pas de numéro sur la soirée, mais je reviens entre chaque personne pour présenter la prochaine. Ouais. Puis j'en profite pour faire des petites blagues.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que j'allais vous demander si vous n'êtes pas frustrée de ne pas faire de show sur ce thème-là, même si vous en faites chacune de votre côté. Mais vous avez quand même l'occasion de caser quelques blagues.
Ouais, tu fais un numéro aussi. Moi, je fais tout le temps un numéro.
OK.
Ouais.
Ouais, c'est parfait.
Parce que je suis égoïste. non, mais parce que j'aime ça faire des numéros. Fait que, dis, Noémie, si un jour tu voulais en faire.
Oui, j'en faisais au début. Je pense que moi, j'ai trouvé quelque chose que je trouvais intéressant dans l'animation. Puis c'est quelque chose que je travaille dans mon processus créatif de connecter avec les gens à travers mon art. Fait que moi, ça m'aide vraiment à. Tu sais, je parle beaucoup aux gens. Puis comme je suis TDA aussi, là. Fait que dès qu'il se passe quelque chose dans ça, je suis comme je réagis. Puis je veux comprendre c'est quoi que les gens vivent pour essayer justement que le spectacle soit. Comme en cohésion avec ce que les gens vivent. Fait que c'est un beau défi. Puis, tu sais, on s'autoproduit, là. Fait qu'on on fait tout, sinon, là. Tu sais, j'ai même créé des petites playlists que vous pouvez suivre sur Spotify, là. Mon nom Spotify, c'est Boubourella. les playlists s'appellent Queens. Puis, il y a 1, 2, 3. Puis, en tout cas, c'est juste c'est de la musique qu'on met avant. T'sais, c'est juste comme toute la soirée, comme tellement travaillée pour que ce soit en pouvoir. Hein.
Très bien. Ben, merci pour la playlist en exclusivité. Et donc, votre spectacle, il est en tournée dans tout le Québec, à Montréal, bien sûr, à Gatineau, à Repentigny, en Abitibi. Pourquoi parcourir tout le Québec avec ce concept-là?
Parce qu'on voulait rencontrer les féministes de partout. Là. Puis souvent, j'ai l'impression que ce genre de show-là reste à Montréal. Genre, ça devient comme niche, une niche montréalaise. Mais nous, on trouvait qu'avec notre but principal, que je disais tantôt, de vouloir rendre le féminisme accessible, je pense que c'est important de se promener à travers le Québec. T'sais.
Vraiment?
Évidemment, on est plus à Montréal un peu parce que c'est plus facile pour nous. Mais c'est vraiment à chaque fois qu'on va dans ailleurs, je capote. Là,
Puis souvent, les gens sont comme, « Ah, vous allez en région? C'est comment en région? T'sais, est-ce que les salles sont pleines? Est-ce qu'il y a une réaction? » Puis il y a des féministes partout. Mm-hmm. Nos salles sont pleines partout. Puis genre, les gens se déplacent. Puis souvent, quand on va dans des endroits où est-ce qu'il y a moins de shows comme ça, où est-ce que c'est moins accessible, les gens sont tellement reconnaissants, ça fait tellement du bien que ça nous prouve qu'il faut juste continuer d'en faire puis de rendre ça accessible.
Vous parliez tout à l'heure de ce problème d'inclusion dans le milieu de l'humour au Québec. Anne-Sara, tu dis notamment que les femmes humoristes ont de la misère à prendre leur place. Noémie, tu dis qu'il y a beaucoup de place pour les hommes médiocres, dans le sens, je te rassure, pour ceux qui testent les jokes, il n'y a rien de méchant. Selon vous, il y a un problème avec les femmes et l'humour au Québec?
Mais je pense que ça tend vraiment à changer là, dans les dernières années. Je pense que, tu sais, peut-être, Anne-Sara, tu fais plus de soirées de bord que moi, là, mais il y a aussi de plus en plus de soirées qui existent, qui sont comme inclusives, exclusives, tu sais, féminines. Je pense que clairement, il y a des questions qui sont en train de faire surface dans le milieu de l'humour. Ça tend à changer. Effectivement, c'est encore principalement dominé par les mâles blancs. Mais
Et le quota d'une humoriste, par soirée ne suffit pas, clairement.
C'est parce que c'est sûr que ça l'aide pas. Ça met un bâton dans les roues, je trouve, d'avoir juste une femme. Mais ça y met la pression. Puis en plus, c'est comme si, rapidement... c'est un boys club, là, l'humour, tu sais. Fait que c'est dur de tu sais, l'humour aussi, c'est de se faire des contacts. En tout cas, je trouve que ça met vraiment un bâton dans les roues. Mais au moins, c'est rendu la norme d'avoir une fille. Parce qu'avant, ça ne l'était pas. Fait que C'est pour ça que ça évolue. Puis je vais plugger ma soirée à l'idéal avec Coco, là, mais tu sais, nous, il y a des... Ben, ça s'appelle la soirée à l'idéal, mais non, la soirée idéale, en tout cas, whatever, mais c'est, nous, on essaie on a au moins minimum 2 filles sur 4. La majorité du temps, c'est 3 sur 4.
Mm-hmm.
Ou au moins 3 femmes puis de personnes à diversité sexuelle et de genre. Puis on est en train de prouver que ça se peut une saison régulière à chaque semaine qui a plus qu'une fille sur le line-up. Mais il y a d'autres soirées un peu aussi dans les bars à Montréal. Puis ça n'existait pas avant que je fasse... pendant que j'étais à l'école de l'humour. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va vraiment changer. T'sais, c'est juste que là, présentement, c'est comme ça commence plus petit, mais je pense que dans plusieurs années, on va voir l'impact que ça va avoir, mettons, au gala des Oliviers, dans les prix, puis ces affaires-là. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'espace pour que les femmes puis les personnes de la diversité sexuelle de genre s'expriment puis s'améliorent plus vite.
Oui, mais je pense que de plus en plus, les gens créent leurs opportunités, vu que c'est plus difficile, mettons, d'être inclus dans qu'est-ce qui existe déjà.
Ouais.
Les gens créent leurs soirées, les gens créent leur niche, créent leur public.
C'est comme l'avantage des réseaux sociaux aussi.
Ouais.
Il y a genre de plus en plus de personnes qui sont comme moi. Je peux partir ma propre affaire parce que j'ai une communauté déjà sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai pas besoin de me prouver à l'industrie, tu sais. Fait que ça l'aide beaucoup pour...
C'est quelque chose qui revient beaucoup parmi les humoristes, notamment avec Eric Pritch, avec qui on avait parlé du fait qu'il s'était vraiment lancé sur les réseaux sociaux parce qu'il ne pouvait pas se lancer en télé. Donc c'est quand même quelque chose qui a l'air de revenir dans ce milieu-là, le fait de se construire seul, notamment à travers les réseaux sociaux.
Vraiment,
ouais. C'est une bonne chose.
Et alors la suite, c'est quoi?
Oh my God! Mais tellement d'idées, on a tellement d'idées.
Ouais.
Quoi faire? Moi, j'aimerais ça me promener plus, là, tu sais, au Québec.
On a des plans aussi d'aller à l'extérieur du Québec, à l'extérieur.
J'ai entendu dire que tu parlais coréen.
On dit où t'as entendu ça? J'essaye, là. Je pourrais pas dire que je parle, là, mais j'ai des petites leçons du Duolingo, là. Mais idéalement, on aimerait ça amener ce spectacle ailleurs, tu sais, rencontrer... les féministes à travers le monde. Tu sais, je dirais que c'est comme un plan de vie, peut-être. Ouais. Je pense que là, ça fait comme... Tu sais, c'est comme la première année, j'ai l'impression qu'on en profite vraiment. Là, tu sais, on a travaillé comme de façon acharnée à faire tellement de spectacles dans les premières années pour comme se faire connaître puis comme se bâtir comme une communauté. Là, j'ai l'impression qu'on en profite un peu. On est comme un peu plus stable. Fait que la suite, ça va être des beaux projets, des belles collaborations, je pense.
Ouais.
Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de votre spectacle. C'est donc le Women's Planning Show. Il y a de nouvelles dates qui sont ajoutées régulièrement à Montréal, au Québec et puis partout dans le monde bientôt. Votre Instagram pour suivre vos dates, c'est le Women's Planning Show, tout attaché. Merci beaucoup à toutes les deux et puis bonne continuation dans l'humour.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
Prochain gros lot du Loto Max, 70 millions plus 24 Max Millions. Un gros lot mirobolant. Mirobolant, trop beau pour être vrai. Mais là, c'est vrai, je n'y est pas.
On fait de bonnes revues culturelles au Québec et il est temps de les découvrir. Pour l'occasion, profitez d'une réduction de 30% sur une sélection de 25 numéros incontournables. Plongez tête première dans une panoplie de sujets fascinants, le cinéma catastrophe, le patrimoine livresque, les prisons, le rêve, l'écosocialisme, la neurodiversité, l'intime et plus encore. La promotion est en vigueur dans plusieurs librairies, boutiques et sur leslibraires.ca et ce jusqu'au 31 août 2024 et jusqu'à épuisement des stocks. Abonnez-vous également à l'infolettre de la SODEP pour rester à l'affût des nouveaux numéros et des promotions.
CIBL 105 Montréal.
Et c'est la dernière également pour la chronique Grande Femme de Montréal avec Elisa Fernandez. Bonjour Elisa.
Bonjour Charline.
Et pour cette dernière chronique de la saison, tu nous parles d'une autrice québécoise qui a disparu tout récemment.
Oui, elle n'avait que 44 ans. Aujourd'hui, je vous parle effectivement de Caroline Dawson, qui est une autrice et sociologue québécoise d'origine chilienne. Et si je le précise, c'est parce que c'est un marqueur important dans son œuvre. Alors Caroline Dawson, elle a donc disparu le 19 mai dernier. Elle était atteinte d'un cancer des os et elle était en soins palliatifs depuis quelque temps. Dans un message qu'il a posté sur Facebook à la suite de son décès, son frère déclare qu'il a, je cite, « perdu sa plus grande complice, sa confidente, sa meilleure amie, sa grande sœur ». Et il parle d'elle comme d'une femme à la fois tenace mais aussi pleine de tendresse. Donc elle laisse derrière elle ses frères, ses parents, mais aussi un conjoint et 2 enfants, mais pas que. Ce sont des milliers de lecteurs qui sont aussi en deuil aujourd'hui. des lecteurs qui avaient pour la plupart appris à la connaître, appris aussi à connaître son parcours en découvrant les ouvrages qu'elle avait publiés.
Ça donne envie d'en savoir plus sur elle. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur son parcours ?
Oui, alors elle est née en 1979 à Viña del Mar, c'est une ville située au nord-ouest de Santiago au Chili. Elle passe les premières années de sa vie sous la dictature de Pinochet et c'est ce qui va pousser sa famille à demander l'asile politique au Québec en 1986. Et à ce moment-là, Caroline, elle n'a que 7 ans et avec ses parents et ses deux frères, elle va devoir tout réapprendre en venant vivre à Montréal. Et eux qui n'ont connu que le Chili jusque-là vont découvrir forcément un climat très différent d'abord, parce qu'en plus ils vont arriver en plein hiver, mais aussi une façon de vivre très différente. Ils s'installent dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve et ils vont faire l'expérience d'être catégorisés comme pauvres. Ses parents, par exemple, vont devoir prendre des boulots alimentaires, un peu les petits boulots dont personne ne veut réellement au Canada. De son côté, c'est finalement dans la littérature qu'elle va trouver refuge. Elle raconte que sa mère les emmenait, elle et ses frères, à la bibliothèque et que c'est comme ça qu'elle s'est familiarisée avec la langue et qu'elle a pu un petit peu mieux s'ancrer dans la culture québécoise. On écoute un extrait d'une interview qu'elle a tournée avec les Archives nationales du Québec.
Ma mère, pour nous offrir un loisir, je pense surtout, elle a décidé de nous amener à la bibliothèque municipale et elle nous emmenait à la bibliothèque municipale tous les samedis, beau temps, mauvais temps. Donc, c'était notre rendez-vous hebdomadaire à la bibliothèque. Donc, pour moi, les bibliothèques, c'est un endroit qui est bien émotif parce que ça a changé ma vie, aller dans les bibliothèques quand j'étais petite. Ça a été mon intrusion dans la langue française, d'une certaine façon. Et donc, ça fait en sorte que c'est devenu ma langue, que la lecture, c'est devenu mon refuge. Chaque fois que je vais dans une bibliothèque, j'ai un petit sentiment très, très ému de « Ah, ces lieux-là, ils peuvent fabriquer ça ou peuvent contribuer à fabriquer d'autres destins pour les êtres humains. »
Plus tard, elle va se lancer dans des études de sociologie, toujours à Montréal, et elle va obtenir son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat dans cette matière. Et après avoir été diplômée, elle commence à enseigner à son tour la sociologie au sein du cégep Édouard-Montpetit qui est situé à Longueuil. Elle va participer à la rédaction de plusieurs articles universitaires au cours de sa carrière, mais il va falloir encore attendre quelques années avant qu'on la voie se lancer dans l'écriture, dans la littérature. Finalement, c'est en 2020 qu'on voit arriver un premier roman portant son nom sur les étals des librairies.
Et de quoi parle ce premier ouvrage ?
Alors, ce premier ouvrage, qui s'appelle « Là où je me terre », il a paru aux éditions du Remue-Ménage en novembre 2020. Et il revêt un fort caractère autobiographique. En fait, ce qu'elle raconte dans ce livre, Caroline Dawson, c'est tout simplement son installation à Montréal après avoir quitté le Chili avec sa famille pendant la dictature. Dans un devoir d'honnêteté, elle raconte les événements vraiment à hauteur d'enfant. Elle passe assez rapidement finalement sur le contexte politique dans lequel elle a quitté le Chili pour raconter ce qui, elle, l'a marqué quand elle n'avait que 7 ans et qu'elle s'est installée à Montréal. Elle fait donc état des sensations qui la traversent à ce moment-là. Elle va s'arrêter sur des détails a priori insignifiants mais qui vont lui rester en mémoire comme un peu comme des marqueurs de ce moment capital qu'elle est en train de vivre. Elle exprime dans ce livre aussi à la fois sa gratitude d'avoir pu s'installer au Canada avec sa famille alors que le climat politique de son pays ne leur permettait plus d'y vivre tout simplement, mais elle va raconter aussi la colère qu'elle a pu ressentir parfois face à l'accueil qui est réservé aux immigrants. Il y a aussi un mélange de honte, un profond sentiment d'inadaptation. Elle explique que quand elle était au Chili, elle était une petite fille très vive, très haute en couleur, et qu'elle a dû, entre guillemets, un peu se ternir pour ne pas se faire trop remarquer ici. À force d'amortir mes couleurs et d'émousser mes ardeurs, je me suis fabriqué une enfance assourdie, c'est ce qu'elle écrit dans ce livre. Ce livre qui fait aussi la part belle à sa mère. Caroline Dawson lui rend une sorte d'hommage dans cette autofiction. Elle en fait un personnage central du récit en dépeignant sa condition de femme de ménage d'origine étrangère et la façon dont elle s'est démenée avec son mari pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. Dans le fond, cet ouvrage, il soulève aussi beaucoup de questions très importantes sur l'identité, sur comment on se définit quand on vient d'un autre pays. Ça parle d'appartenance, d'immigration, d'intégration aussi. Et c'est vraiment un très beau livre, assez émouvant, très fort aussi, parce qu'il arrive à parler à la fois d'un bouleversement intime, personnel, propre à l'autrice, mais aussi d'une expérience que des milliers de personnes vivent encore aujourd'hui, et c'est ce qui le rend d'autant plus d'actualité.
Ça donne envie en tout cas. Est-ce que ce livre a remporté du succès à sa sortie ?
Bien oui, il a conquis non seulement le cœur des membres du milieu littéraire québécois, mais il a eu aussi un très bon accueil du public, des lecteurs. Grâce à ce livre, elle a aussi reçu quelques prix. Non seulement elle a été finaliste du prix des libraires du Québec, mais elle a aussi remporté le prix littéraire des collégiens, toujours au Québec.
Est-ce que ça l'a encouragée à écrire d'autres ouvrages par la suite ?
Oui, totalement. On y retrouve un peu les mêmes thèmes que ceux qu'elle abordait dans ce premier roman, Là où je me terre. Elle a d'abord écrit un recueil de poèmes en 2023, donc 3 ans après la sortie de son roman. Et dans ce recueil, qui s'appelle « Ce qui es-tu », elle s'adresse en fait à ses enfants. Elle leur explique par le biais poétique d'où elle vient, quel est son parcours, son histoire, de son départ du Chili à son arrivée au Canada, etc. On y retrouve encore une fois des thématiques assez puissantes comme le racisme ou encore la honte que l'on peut parfois ressentir quand on vient d'ailleurs. Et puis cette année, au mois de février, on a vu paraître un dernier ouvrage, un livre pour enfants cette fois-ci, qui s'appelle « Partir de loin ». Et sans surprise, c'est encore un peu la même trame que l'on suit. On parle d'immigration, mais du point de vue d'une enfant. De son vivant, même en suivant une chimiothérapie, Caroline Dawson, elle encourageait aussi les lecteurs à ouvrir leur horizon littéraire, à sortir un petit peu des sentiers battus, à lire davantage d'autrices et d'auteurs racisés et à découvrir la littérature autochtone. Elle tenait d'ailleurs une chronique dans l'émission « Il restera toujours la culture » sur Radio-Canada, où elle conseillait des ouvrages méconnus du grand public. On écoute comment elle en est venue elle-même à remettre en question sa façon de lire.
Dans ma propre bibliothèque et dans le salon, je regardais, je cherchais un livre que je n'avais pas lu. Et j'ai vu tous les petits messieurs qui ont écrit des choses. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai pas de femmes ou très peu. Il n'y a pas beaucoup de personnes racisées. Il n'y a pas de littérature autochtone. Puis là, j'avais comme... C'est pas de la honte, mais un peu d'un sentiment d'échec, de dire, aïe, moi, je prends ça, mais dans mes propres lectures, je fais pas. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de, pendant un an, de ne lire que des femmes et que des personnes racisées. Puis ensuite, l'année d'après, j'ai intégré de la littérature autochtone. Puis au bout de 3 ans, j'ai lâché
les quotas.
Oui, parce que j'avais déjà intégré, tu sais, finalement, plein de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. Et donc, il faut que j'aie te cantonner à ce moment-là.
Donc c'est un extrait d'une interview qu'elle a donnée à Émilie Perrault sur Radio-Canada 2 semaines avant son décès. Une interview qui a d'ailleurs été réalisée juste après une annonce assez importante. La chaîne a annoncé le lancement d'un prix littéraire qui va porter le nom de Caroline Dawson. Et le but de ce prix littéraire, c'est quoi ? C'est de récompenser chaque année un auteur émergent issu de l'immigration. On écoute sa réaction toujours au micro d'Émilie Perrault sur Radio-Canada.
Comment ça sonne à tes oreilles, le prix Caroline Dawson?
C'est de la musique qui vient pour mes oreilles. Oui, je suis très fière, pleine de gratitude aussi que vous ayez pensé à ça. Oui. J'aimerais qu'il récompense l'effort fait par les gens pour aller ailleurs, faut que c'est paresseux, mais il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui vont raconter une histoire qui est belle, tu sais, mais qu'on l'a lu 200 fois, tu sais. Donc, ce prix-là, j'aimerais ça qu'il récompense les auteurs ou les autrices de livres, justement, qui vont ailleurs.
Finalement, on le voit avec ce prix, elle est connue en tant qu'autrice depuis 4 ans, mais au final, elle a marqué la littérature québécoise depuis son existence.
Exactement, finalement, même si elle n'a signé que 3 ouvrages, elle s'est vraiment ancrée dans le monde littéraire québécois avec une œuvre très forte, des thèmes récurrents, on l'a vu, qui racontent quelque chose de notre société, un vécu, une expérience partagée par des milliers de personnes, mais aussi une épopée intime, une quête d'identité qui lui est propre. Avec ses écrits, elle a inspiré d'autres ouvrages plus récents qui parlent notamment d'origine sociale et de transfuge de classe. Et au-delà de ça, ce qu'elle laisse derrière elle, c'est l'image d'une femme engagée, forte, combative malgré la maladie. Bref, une femme inspirante qui appartient définitivement au groupe des grandes femmes de Montréal. Et pour lui rendre hommage, eh bien, il ne vous reste plus qu'à foncer découvrir ses ouvrages en librairie ou à la bibliothèque. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus.
Comment tu l'as découvert, toi ?
Ben, tout simplement en cherchant un sujet pour cette chronique, je regarde un petit peu l'actualité littéraire, culturelle au sens large, et je suis tombée sur elle. Puis après, j'ai lu son premier roman, et je suis vraiment, je suis une fan convaincue.
C'est vrai.
Et je peux que vous la recommander, vraiment, son roman est excellent.
Est-ce que tu lis tous les ouvrages des personnes pour qui tu fais des chroniques ?
Ouais, j'essaie quand même.
C'est bien, c'est une bonne journaliste. Les auditeurs, auditrices te remercient. Merci beaucoup Elisa pour toutes ces chroniques sur les grandes femmes de Montréal. Je te souhaite un bon été, puis à bientôt j'espère.
À bientôt.
On écoute justement Elisa de Arnaud et Jane Birkin.
Élise, 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 saute-moi au cou.
Élise, 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 cherche-moi des poux.
Enfonce bien tes ongles
et tes doigts délicats
dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou.
Elisa, 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 cherche-moi des poux.
Fais-moi quelques anglaises
et l'arrêt au milieu.
On a 13.
S'en fout.
Élise, 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 rien que toi, moi, nous.
T'es 20 ans, mes 40, si tu crois que cela
me tourmente.
Ah là, vraiment, Lisa.
Et c'est l'heure à présent de la chronique philosophie de notre chroniqueur et philosophe Michel Binette. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, mais tu as décidé de nous parler de problèmes.
Oui, en effet. Donc c'est un problème de trouver la chronique. Non, je fais des blagues, mais c'est un thème que j'aime particulièrement parce que qui ne vit pas de difficultés ou ne vit pas de problèmes? Je pense que tous, c'est un problème. C'est quelque chose de partagé par le commun des mortels, comme on dit. Donc, c'est intéressant d'aborder selon l'aspect philosophique.
Et justement, qu'est-ce que ça veut dire, les problèmes en philosophie?
Oui, ben c'est ça. C'est d'abord la première question. En fait, qu'est-ce qu'on entend par problème ou difficulté ou crise même? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comme philosophe, ben, on essaie de comprendre les lois de la vie, on comprend la nature, comment on fonctionne, comment l'humain fonctionne. Et une évidence qu'on constate en observant, les problèmes font partie de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir un petit peu. Là.
Et pourquoi la philosophie s'intéresse-t-elle aux problèmes, alors?
C'est justement parce que il semble y avoir quelque chose qui se dégage derrière ça, c'est-à-dire un principe universel, si on peut dire, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire qui est partagé par tous. Et il y a peut-être les anciennes traditions nous parlent de différentes façons de voir les choses. Et il y a peut-être notre façon de voir les choses aujourd'hui, justement, on peut appeler un problème qui... Est-ce que ça en est réellement un ou c'est quelque chose qui se passe dans notre vie qui ne se passe pas comme on voudrait qu'il se passe, en fait? Donc, c'est comme un inattendu ou quelque chose... C'est ce qui n'était pas prévu.
Est-ce que les problèmes font forcément partie de la vie ou est-ce qu'on peut vivre sans aussi?
Je pense qu'on aimerait vivre sans problème. En tout cas, pour la plupart, on aimerait bien que les choses se déroulent tranquillement et un peu selon ce qu'on aimerait, selon ce qu'on voudrait. Mais la réalité est autre. Il y a des problèmes, il y en a de toutes sortes. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes dans nos relations, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes même de santé. Donc, il y a différents types d'événements, appelons-le comme ça, qui se passent dans notre vie, qui vont nous mettre au défi, si on peut le voir comme ça.
Qui dit problème dit solution, dit l'adage, mais parfois ce n'est pas tout le temps vrai. Comment on fait quand il n'y a pas de solution?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a jamais de solution? C'est une bonne question, en fait. Pour résoudre, d'abord, il faut voir est-ce qu'il y a réellement un problème, est-ce qu'il y a une difficulté, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on rencontre qui nous met face à nous-mêmes. Et peut-être si on ne voit pas de solution, il y a peut-être un changement de perspective, essayer d'élever un peu notre conscience pour voir les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue, pour voir est-ce que j'ai fait toutes les angles possibles à la situation. Ce qui demande... Avant, c'est ça un peu le travail philosophique d'investigation, c'est-à-dire est-ce que je peux voir comment je change de perspective, justement, et comment je fais pour voir ce que je rencontre d'une autre façon alors que je suis pris dans le problème. Des fois, c'est difficile, on est dedans, on est émotionnellement affecté, on est dans le tourbillon, mais là, si on va dire à quelqu'un qui vit ça, un problème, essaie de voir autrement, essaie de trouver une solution, ça ne va pas l'aider nécessairement. Donc, comment arriver à élever cette conscience, c'est-à-dire de voir les choses d'un autre point de vue, de se calmer, de se tranquilliser. Donc, c'est un peu ça, tout ça, le travail philosophique, en fait.
En effet, la philosophie existe, fort heureusement. Mm-hmm. Quels outils peut-elle nous apporter pour résoudre ces problèmes?
C'est ça. Il y a nous avons tous un pouvoir, en guillemets, qu'on a tous accès, qui est plus simple qu'on le pense. En fait, c'est celui de la concentration. Qu'est-ce que ça veut dire, la concentration? En fait, le contraire serait la distraction. C'est-à-dire, la distraction, d'être pris dans le problème. C'est-à-dire qu'on est distrait de notre vie, de notre vécu, par le problème. Ou on peut aussi se distraire par on ne veut pas voir le problème, on va se distraire par autre chose. Donc, se concentrer, ça le dit, c'est d'arriver au centre, d'être avec le centre de soi-même. Mais c'est aussi être au plus élevé de soi-même. Comment on le sait si on est plus élevé? On est tranquille, on est calme, on voit les choses d'un angle différent. Et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné. On vit quelque chose de difficile, mais on fait quelque chose, on change les idées, on revient, puis finalement on voit finalement c'était pas si pire que ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé un peu de centre, un peu de calme. Mm-hmm. Donc il y a des pratiques pour arriver à trouver ce centre-là. Et ça répond un peu à la question précédente où si on ne voit pas de solution au problème, peut-être qu'on n'est pas 100% au centre. Donc, ça va nous demander de chercher comment je retrouve ce centre, là où je me sens tranquille, calme, là où je peux faire face, aborder les difficultés d'un autre point de vue. Donc, c'est un outil qui se développe en philosophie pratique, c'est-à-dire d'arriver à trouver pour soi, comment nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, on retrouve ce calme. Certains, ça peut être se faire une pratique de concentration, il y en a différentes sortes. Il y en a qui c'est écouter une musique qui nous élève, lire un livre, voir un film qui nous amène à une tranquillité ou avoir une espèce d'esprit élevé, enthousiaste par rapport aux choses.
Et puis parfois les problèmes existent, mais on ne les voit pas. Mm-hmm. Comment ça se fait?
Ben, c'est justement, des fois, il peut y avoir différentes raisons. Certaines, c'est que des fois, on ne voit simplement pas le problème. Il y a quelque chose qui nous dérange et tout ça, mais on ne sait pas trop, on n'est pas content, on n'est pas heureux, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. D'autres fois, on ne veut pas voir le problème parce qu'on ne sait pas le résoudre non plus. On voit qu'il y a une difficulté, par exemple, avec un collègue, avec dans la relation, un problème qu'on ne veut pas aborder, avec la famille, avec même financier. Donc, on sait que c'est là, inconsciemment même, des fois, on le sait. Et des fois, on venait pour l'aborder, mais on pense à autre chose. Il y a d'autres choses à faire. Et des fois, ça peut être même juste faire la vaisselle. On ne veut pas faire face à la vaisselle à la maison, le ménage. Mais on passe à côté et on va créer un plus gros problème. Mm-hmm. Donc, encore une fois, cette pratique du centre, d'arriver à se retrouver un état de tranquillité, va nous aider. Ben, comment je vais résoudre? Qu'est-ce que je veux pour ma vie, en fait? Est-ce que je veux toujours constamment éviter les problèmes ou plutôt je veux apprendre à y faire face et à m'entraîner, en fait, à pratiquer, à faire face à différentes difficultés? Parce que de toute façon, on vivra des difficultés dans la vie, des problèmes dans la vie. Il y en aura toujours. Je ne veux pas être dramatique, mais c'est une réalité de base à accepter, c'est-à-dire qu'il y aura des difficultés ou des épreuves. Mais ceci dit, si on n'accepte pas cette réalité, bien, on va toujours être un peu déçu, un peu triste, un peu dérangé, un peu affecté par la vie, en fait.
Les problèmes ont toujours existé, enfin je crois. Mm-hmm. Qu'est-ce que disent les anciennes traditions à ce propos?
Ben c'est intéressant parce que il y a toujours eu, l'être humain est l'être humain, il y a toujours eu des difficultés, mais on peut voir dans certaines traditions, que c'était abordé de différentes façons. C'est-à-dire même des fois on cherchait, on disait même une vie sans difficultés ou sans épreuves ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, on dit waouh, c'est une autre perspective. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance à dire on va essayer d'éviter, on va arrondir les coins, on va essayer de mettre la ouate à gauche, à droite, émotionnellement et dans notre vécu pour ne pas rencontrer d'aspérité ou de difficultés. Alors que dans d'autres traditions anciennes, c'était bienvenu. C'est-à-dire, ça va me mettre à l'épreuve, ça va aller chercher en moi. Ça va me demander d'aller chercher en moi des qualités, développer le courage, la vaillance, des vertus, en fait, pour faire face aux difficultés. Et c'était transmis souvent par des mythes, par exemple, ou des allégories. Par exemple, pensons à Héraclès ou Hercule, c'est-à-dire qui vit les 12 travaux, les 12 épreuves qu'il va vivre, en fait. Ben, en fait, c'est une allégorie en même temps ou une histoire qui nous dit, on voit plusieurs épreuves qu'il traverse, mais chaque épreuve lui apporte quelque chose, en fait. Il arrive à la fin, est transcendé. C'est symbolique, évidemment. On ne parle pas de vivre le même type d'épreuve, mais c'est plutôt d'aller chercher en nous, qu'est-ce qu'il vit. Mm-hmm. Je prends un exemple, je n'ai plus en tête les noms, mais je pense qu'il se bat à un moment donné contre le lion, et puis le lion d'Énémé, je pense, et puis va le confronter, faire face. Jusqu'à temps qu'il arrive à le vaincre. Et qu'est-ce qui est dans les autres épreuves après? Il porte la peau du lion sur le dos. Bon, c'est pour avoir l'air barbare, mais évidemment, on est dans le symbolisme ici. Donc, c'est plutôt symboliquement, il porte la vaillance ou la force ou l'orgueil, mais dans le bon sens de la chose, du lion, c'est-à-dire la force du lion.
Le lion étant le problème?
Exactement. La difficulté que l'on rencontre est le lion, représenté par le lion. Il y a aussi l'hydre de Lerne, je pense qu'il s'appelle, et c'est ce monstre aux 100 têtes, et puis qui Hercule coupe les têtes, il le repousse constamment, jusqu'à temps qu'il découvre qu'il faut aller au cœur, c'est-à-dire frapper le cœur de la bête. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, des fois, on se bat contre différents problèmes, on coupe, et on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à vaincre, à dépasser quelque chose qui revient. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à aller au cœur du problème, mm-hmm. comme Hercule le fait, c'est-à-dire qu'il développe cette capacité. Ah, c'est là le problème. Et là, au lieu de se battre contre 100 problèmes, on se bat contre un problème qui est
l'origine du mal.
L'origine, exactement.
Et alors, quelle est la première étape quand on rencontre un problème, puisqu'on en est à essayer de résoudre le problème?
Oui, c'est ça, en effet. La première question à se poser, c'est de voir que dans la vie, il y a des épreuves, il y a des problèmes. Donc, la première étape est d'accepter qu'il y a des problèmes. Donc, c'est fondamental parce que si on n'accepte pas ça, on va toujours être un peu en train de fuir, en train d'éviter, en train de chercher à ne pas voir, à être distrait par autre chose.
Mm-hmm. Une fois qu'on a reconnu et accepté l'épreuve, quelle est l'étape suivante?
Ben, c'est ça, en ayant accepté cette réalité, déjà, ça va nous tranquilliser. Parce qu'on va se dire, ben, je rencontre une difficulté, pourquoi m'en surprendre? Parce que je sais que c'est normal, que ça fait partie de la vie. Et ça, c'est très stoïcien de dire ça, c'est ce qu'ils vont nous enseigner, les philosophes stoïciens, que sur quoi j'ai un réel pouvoir. Sur ça, les difficultés, ce que je vais rencontrer, les choses qui ne fonctionneront pas comme je veux ou comme je pensais, ben, ça fait partie de la vie. Donc une fois qu'on est tranquillisé, ben, on peut dire, ben, on peut y faire face. C'est-à-dire, ah ben il y a un problème maintenant. Maintenant, je peux lui faire face, je peux l'affronter et le voir. Mm-hmm. Deuxième étape.
Et au final, faire face à des épreuves, trouver des solutions, c'est la vie. Donc, il faut apprendre à faire face et puis aussi l'intégrer au fait que c'est normal, c'est la routine.
Exactement. Non, ça va comme, on peut le prendre comme au jour le jour. C'est-à-dire qu'on va rencontrer toujours des petites difficultés et ça nous amène à développer, encore une fois, des qualités, des vertus qui vont nous être utiles pour les prochaines épreuves. Parce que si on n'accepte pas, on n'y fait pas face, ben on revit toujours la même chose. Et quoi, la vie va toujours être un peu pareille. Donc, on va chercher à l'extérieur à vivre des différentes expériences qui vont nous emmener quelque chose, mais de vivre la vie en relevant des défis, en faisant face aux épreuves, va nous transformer un petit peu si on le prend du bon côté. Et il faut aussi se questionner, ben, comment je veux résoudre les problèmes? Est-ce que je veux les résoudre pour le bien, le bon, le juste, comme disait Platon, pour l'humanité, en fait, pour m'améliorer comme être humain? Ben là, c'est sûr que je vais toujours avoir une source quotidienne d'apprentissage et de retirer l'essence de la vie qui va m'amener toujours un peu plus à l'intérieur de moi-même, un peu plus fort, un peu plus courageux, un peu plus vertueux, un peu plus... en fait, ce qui va m'amener à être plus utile aussi autour de moi, parce que développer ces qualités me tranquillise et me rend confiant envers moi, que je vais rencontrer des solutions, que je vais pouvoir aussi aider les autres autour de moi. Mm-hmm. Je vais pouvoir être un pilier un peu de stabilité dans la vie. Et on a besoin, je pense, à notre époque, autant qu'à d'autres époques, mais on a toujours besoin de gens qui sont capables d'avoir une autre perspective qui nous aide à rencontrer et à résoudre nos épreuves, en fait.
Et alors, est-ce qu'il y a une pratique quotidienne qu'on peut appliquer pour faire face à tous ces problèmes qui nous entourent?
Bien, c'est ça, il faut s'entraîner dans les petites choses, parce qu'il y a des petites épreuves, mais il y a des grandes épreuves dans la vie. Et des fois, il y a des épreuves qui, on l'a parlé un peu tantôt, où qu'on essaie d'éviter. Des fois, ça peut arriver que c'est normal, dans le sens où c'est peut-être une grosse épreuve pour l'instant, mais je peux l'accepter, ben, je la vois, elle est là, mais pour l'instant, je ne me sens pas prêt à y faire face. Donc, s'entraîner dans les petites choses de la vie, au jour le jour, au quotidien, c'est-à-dire, on a toujours des petites choses qu'on rencontre que ça ne nous tente pas de faire ou des problèmes personnels que l'on rencontre. Et je donne toujours l'exemple, même de passer le balai, c'est une petite épreuve pour certains. Ils disent, bon, je ne me tente pas, il faut faire autre chose, et puis, bon, faire la vaisselle. Donc, on s'entraîne là-dedans en se disant, bon, c'est à faire de toute façon, parce que si je fais pas la vaisselle, elle va pas se faire d'elle-même, mm-hmm. et donc ça va s'accumuler, et on peut imaginer ce qui va se passer. Donc s'entraîner à voir ça de façon calme. Bon, comment je vais le faire? Comment je vais l'aborder? Est-ce que je peux faire de façon plus joyeuse, ou je peux même écouter de la musique, écouter la radio, écouter quelque chose qui, en même temps, me permet à la fois de faire quelque chose qui me tente moins, mais en même temps, j'apprends quelque chose en même temps. Donc, trouver des façons de résoudre intelligentes sans éviter la chose, mais extraire un apprentissage de ce que j'ai à faire. Et aussi, une autre pratique, ça serait de retrouver ce centre, comme je parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire cette concentration, savoir se connaître, en fait. Qu'est-ce qui me recentre? Et c'est différent pour la plupart d'entre nous. Quelque chose qui est bien pour une autre personne, pour moi, ben non. Donc, trouver un peu mon temple intérieur, c'est-à-dire là où je peux être plus calme, plus tranquille. Donc, trouver comment je vais y arriver. Ne pas me laisser aller dans le chaos parfois émotionnel et essayer de trouver une façon de sortir de ça, parce que ça va tous nous arriver, ça nous arrive tous. Mais d'arriver, bon, OK, je me calme, je vais respirer, méditation, concentration, peu importe, mais retrouver un centre pour refaire face à la vie Et la vie comme ça devient une aventure parce qu'elle va toujours être pleine de surprises et pleine de défis à notre intelligence, en fait, et à notre créativité de résoudre des problèmes. Et on devient tranquille avec ça.
Merci beaucoup, Michel, pour cette réflexion philosophique. Moralité, n'oubliez pas de faire votre vaisselle. Très important.
Oui, exactement.
Merci beaucoup. Et puis, on te retrouve dans des chroniques cet été également avec le nouvel animateur qui prendra place.
Oui, au plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
J'ai perdu trop de temps à tenter de me faire aimer par des gens qui me voyaient pas. J'ai perdu trop de temps à tenter de me faire aimer par des gens qui me croyaient pas. J'ai perdu trop de temps à juste tenter d'exister pour des gens qui aujourd'hui me manquent pas.
C'était Temps perdu de Émile Proux-Cloutier. Pour nous, l'émission du jeudi est déjà finie. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, c'est la dernière émission de la saison me concernant et pour l'occasion, nous allons l'enregistrer en public. Soyez donc présents demain à 8h sur nos ondes et en podcast pour la suite. Dès lundi, ce sera Jérémy Harvey, notre nouvel animateur qui prendra la relève. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une dernière émission.
Qui a besoin d'aide, mais je veux pas m'imposer.
J'ai envie d'ajouter des sous-titres à la rencontre, mais j'ai peur que ça dérange les autres.
Ah, j'ai pas compris ce qu'elle vient de dire. Mais je veux pas la faire répéter.
J'aimerais ça m'impliquer, mais on dirait que c'est pas ma place.
Arrêtons de nous questionner et ouvrons le dialogue avec les personnes handicapées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur québec.ca/SQPH. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard.
Et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
CIBL 105, Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à l'émission